se rationner pour tenir sur la durée face à l'ennemi russe. Sur la ligne de front, dans l'est de l'Ukraine, ces soldats ukrainiens l'avouent avec inquiétude. Leur stock de munitions baisse à vue d'œil.
On n'en a vraiment pas assez.
L'armée ukrainienne tire chaque jour quelques 5000 obus d'artillerie. Les forces russes, 4 fois plus. Malgré les livraisons d'armes occidentales, l'Ukraine risque-t-elle de se retrouver à court de munitions?
Le rythme actuel d'utilisation de munitions par l'Ukraine est beaucoup plus élevé que notre rythme actuel de production. Cela met nos industries de défense sous pression.
Les stocks d'armement des alliés de l'Ukraine s'épuisent peu à peu. Car après plusieurs décennies de paix, beaucoup ont coupé drastiquement dans leurs dépenses militaires. Les usines d'armement ne sont plus dimensionnées pour répondre au retour de la guerre.
Je pense que naturellement on pense à la Première Guerre mondiale. Dans laquelle effectivement c'était une guerre d'artillerie lorsque c'était une guerre de position. Et c'est ce que l'on voit là, c'est-à-dire une guerre dans laquelle on cherche à détruire l'adversaire par l'attrition, c'est-à-dire en détruisant le maximum. De gens, bien sûr, de matériel, de blindés aujourd'hui qui n'y avait pas pendant la Première Guerre mondiale. Mais enfin, les obus, effectivement, vous soulignez 5000 obus jour, ça fait 200 000 obus mois.
Ouais.
Sur une année, ça fait évidemment beaucoup plus. Et quand on compare aux chiffres donnés par les Américains, 1 million, on n'arrive pas au 1 million. Donc en fait, et on a un vrai problème de munitions, c'est-à-dire que ce ne sont pas du tout les mêmes calibres selon que le matériel est un matériel russe ou ex-soviétique et un matériel de l'Occident, donc sous couvert de l'OTAN. Les calibres sont différents, donc vous ne pouvez pas interchanger les munitions en fonction de l'armement, évidemment. Et puis bien sûr, derrière, l'Occident qui, grâce aux dividendes de la paix, a réduit très nettement les investissements en matière d'armement, a réduit aussi drastiquement le nombre d'obus que l'on commande par an. Et donc, en fait, qu'a-t-on fait au départ? On a donné des obus. Et aujourd'hui, les stocks sont vides. Oui. Et donc...
Vous êtes à plusieurs niveaux. Donc évidemment, vous avez tout ce qui est munitions qui va être au niveau du quotidien. Et quand on va parler, par exemple, de véhicules blindés ou y compris de tanks, c'est quand vous allez essayer de rentrer dans un principe d'offensive ou de contre-offensive pour aller percer des lignes. Donc évidemment, après, c'est quel est le niveau d'urgence dont vous allez avoir besoin de manière première. Et en règle générale, ce que l'on vous dit, c'est principalement des munitions, des systèmes de défense antiaérien et du véhicule avec un blindé qui soit suffisant, alors tant qu'idéalement, pour permettre de pouvoir avancer. En tout cas, ce sont les demandes qui sont faites. Mais on est dans un conflit qui est sur plusieurs niveaux et pas sur une seule demande de matériel, bien évidemment.
Les Ukrainiens,
ce dont vous disposez, les flux sur lesquels vous pouvez compter et la disponibilité de votre matériel, c'est pas seulement les Ukrainiens. On voyait les Russes qui, avant l'arrivée des HIMARS sur le front, avaient une consommation qui était encore supérieure à celle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'ils pouvaient compter sur leur stock plus ancien, ils pouvaient compter sur l'appoint des Nord-Coréens, ils pouvaient compter sur la pointe des Biélorusses. Ces stocks ont beaucoup diminué par leur consommation, par les très importantes destructions qui ont eu lieu tout au long de l'été du fait des HIMARS américains. Donc aujourd'hui, eux aussi ont dû s'adapter. Maintenant, à mon sens, les Ukrainiens vont évidemment adapter leur façon de faire la guerre avant de tomber en panne sèche pour durer et attendre peut-être la livraison ou la montée en puissance éventuelle des industries européennes.
Heureusement pour nous, mais oui, ils ont bien baissé, puisque je crois qu'il faudra plusieurs années, par exemple, pour compléter les stocks américains. En particulier un obus de 155, et qu'il va falloir augmenter la cadence de fabrication de ces obus. C'est au calibre de 155, c'est les canons César, c'est du calibre 155. Les canons donnés par les Américains sont aussi des canons de 155, les obus de 155 mm, pardon. Et donc effectivement, beaucoup ont été consommés, et déjà les Ukrainiens ont réduit par rapport aux Russes, puisque les Russes consomment 20 000 obus par jour en moyenne, alors que les Ukrainiens en consomment 5 000, donc on est déjà à 4 fois moins.
Oui.
Ce qui est déjà gigantesque. Et si on reconstruisait, si on relançait nos usines de production, je ne suis pas convaincu que demain, on arrive à fournir le nombre d'obus suffisant
et pour l'armée ukrainienne.
Et attends. Plusieurs
membres du gouvernement ukrainien mettaient l'accent dessus, notamment pour une raison qui les inquiète. Alors on voit que la ligne de front bouge avec difficulté. On a du mal à avoir des informations, ou du moins il faut du temps pour que cela soit confirmé. Les avancées de part comme de l'autre sont difficiles, sont très très coûteuses. Mais ce que l'on voit aussi, et c'est ce qui inquiète, c'est que vous avez quelque part une sédimentation des forces russes sur la partie est, avec des renforcements renforcement de structures défensives. Alors, on va parler de types de tranchées de renforcement. Et ce que disent les Ukrainiens et ceux qui les craignent, c'est qu'à partir du moment où vous aurez cette espèce de forme d'installation, il sera encore plus difficile de venir déloger. Donc, ils voudraient éviter d'en arriver à ce point-là. Ce qui semble être d'ailleurs un des points. Il y a des cartes où vous voyez très clairement les renforcements russes sur la partie est du territoire ukrainien.
Alors, on parle...
Au début du conflit, on a eu des analyses qui divergeaient sur ce point-là. Vous aviez des responsables américains qui disaient que les Russes achetaient des machines à laver pour les démonter et mettre leurs composants. Bon, aujourd'hui, on peut quand même beaucoup nuancer cette approche-là. Les sanctions ont un effet à un point T qui ensuite s'amenuise tout simplement parce que les Russes trouvent des moyens de contournement. Vous avez des entreprises qui, installées à Hong Kong, achètent certains stocks américains et ensuite les réexportent d'une manière ou d'une autre vers la Russie. Donc ça fonctionne. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut peut-être dire tout de suite que les sanctions n'ont aucun effet. Les sanctions forcent les Russes à passer par ces moyens louvoyants pour trouver d'autres sources d'approvisionnement qui ralentissent néanmoins leur production, quoi qu'il en soit.
Ce qui est certain, c'est que les Russes ont utilisé beaucoup de leurs anciennes munitions. Je pense qu'ils avaient des gros stocks, d'où effectivement l'explication de bombes qui n'explosent pas forcément. Et qu'effectivement, pour construire des bombes, j'allais dire, qui ciblent bien, c'est-à-dire en fait en termes de précision, parce qu'en fait c'est là où les microprocesseurs sont intéressants, effectivement je pense qu'ils s'approvisionnent ailleurs. Puisqu'en fait, jusqu'à présent, ils se fournissaient beaucoup en Occident. Ils ont dû changer leur fusil d'épaule, évidemment. Et donc, ils s'approvisionnent.
Et donc là, les usines russes, elles tournent à plein régime.
Oui.
Comme ils le prétendent.
Absolument. Ouais. C'est-à-dire qu'ils
ont transformé. Avec des nouvelles usines également?
Ils ont dû transformer des usines civiles, qui fabriquaient du matériel civil, en matériel militaire. C'est ce qu'on appelle l'économie de guerre, en réalité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs en 14-18. C'est-à-dire qu'une usine de tracteurs va fabriquer des chars ou en 39-45. Ce qui n'est pas le cas en Occident. Ce qui est le cas, effectivement, en Russie. Ils ont une véritable industrie d'armement qu'ils ont redéployée. Qu'est-ce que ça donne derrière en termes de fabrication de munitions? Je ne sais pas, mais enfin, on peut supposer qu'effectivement, ils ont un nombre de munitions aujourd'hui suffisant.
Je pense que pas grand monde se faisait d'illusions sur l'état de nos stocks. Ça fait 30 ans qu'on est dans une politique de réduction des formats et des distocks, justement, donc on ne pouvait pas non plus avoir de grandes illusions là-dessus. Certains, peut-être à l'ouest, ont quand même compté sur les livraisons de ceux qui étaient à l'est, qui avaient quand même hérité de quantités importantes après la chute du mur. Il y a aussi le fait que relancer une production pareille, ça prend quand même du temps, même sur des obus assez simples, même sans aller dans des choses très complexes.
Combien de temps ça prend? Donc, et quoi?
Et ensuite, il faut des matériels, je sais pas exactement.
Simplement, rien que la poudre, c'est devenu une denrée rare. Parce qu'on a considéré que ce n'était pas stratégique depuis 30 ans, parce qu'on s'est dit, en cas de crise, nous pourrons en acheter ailleurs. Comme on a fait pour les masques ou pour les médicaments avec la crise Covid.
Donc, manque d'anticipation.
La crise arrive. Tout le monde se jette sur les mêmes produits, ils deviennent rares, leur prix monte et les approvisionnements sont plus difficiles.
Oui. Vous avez plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'une fois que vous avez réussi à produire votre matériel, donc ça suppose que vous avez réussi à sécuriser votre chaîne d'approvisionnement, que vous avez le matériel, que vous avez tout produit avec un coût de revient, parce qu'il y a quand même une question de coût de revient qui va être assez importante. Il faut encore que vous le transportiez, qu'une fois que vous avez traversé l'Europe, que vous l'ameniez exactement où il faut en Ukraine. Donc tout cela est particulièrement compliqué. Et ensuite, il faut que vous apportiez le matériel qui va être nécessaire à tout ce qui est ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle. Donc la maintenance. À partir du moment où vous produisez au plus près de la situation, eh bien, vous pouvez déployer beaucoup plus rapidement, vous pouvez avoir des retours de terrain, vous pouvez adapter. Et puis, vous avez un coût qui va être un petit peu moins important. Et en Ukraine, vous êtes effectivement sur un principe d'économie de guerre. Donc on a tout ça, si vous voulez, qui se met en place. Encore une fois, on est sur des choix, sur des décisions. On sait très bien que quand bien même là, on voudrait relancer, eh bien, les industriels ont besoin de fonds pour pouvoir simplement relancer et remonter des chaînes, des usines, etc., recruter et avoir des gens qui vont monter en compétences pour le faire.
Je pense qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est effectivement la chute du mur. Donc effectivement, on a pensé ou supposé que la paix allait durer.
La fin de l'histoire.
C'est la fin de l'histoire, absolument. Ça, c'est le premier élément. Donc en fait, on a désarmé. Deuxième point, en fait, on s'est retranché derrière la dissuasion nucléaire en se disant, en fait, grâce au nucléaire, finalement, on fera plus la guerre. Parce que si on nous attaque, eh ben, on a nos missiles et on sera capable de frapper cet adversaire. Or, en fait, on s'aperçoit qu'on a besoin des deux. On a besoin à la fois de cette dissuasion, on a besoin de la masse. Or, on n'a plus du tout la masse. Et on n'a plus suffisamment d'industrie en mesure de fournir, dès demain matin, le nombre d'obus nécessaires. On ne relancera ces chaînes que s'il a des commandes sonnantes et trébuchantes.
Elles sont parties où, ces usines, pardon? Vous dites parties.
D'abord, on a eu moins de besoins, puisqu'on a eu... Là, on parle de 400 chars par mois.
Puis 200.
Aujourd'hui, on a 220 chars dans l'armée française. Alors qu'en 1991, date de ce reportage, on avait 1400. Donc il y a voilà, oui. Donc on a perdu beaucoup, on a fermé beaucoup d'usines. D'ailleurs, on ne fabrique même plus le fusil d'assaut des soldats français.
Au temps où la France avait 1400 chars, je crois que les niveaux de budget militaire, ils dépassaient largement les 2%, ils étaient au-dessus de 3 même, il me semble. Mm. On est en France. On est relativement en paix avec nos voisins immédiats, j'ai envie de dire. Nos perspectives d'invasion du territoire sont limitées et couvertes, il est vrai, par la dissuasion, au moins en théorie.
La dissuasion nucléaire.
Voilà. Mmh. À côté de ça, vous avez les retraites, vous avez la crise Covid qu'il faut finir de gérer, vous avez tellement de dépenses qui peuvent paraître...
Mmh. Prioritaires.
Pour beaucoup de gens, prioritaires. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, la France, l'opinion publique, le gouvernement serait prêt à s'engager pour remonter un budget à 3% et ensuite, encore faudra-t-il voir qu'est-ce qu'on fait de ces 3%.
Alors... On a plusieurs sujets. Quand vous allez parler des questions de défense, eh bien, vous allez toucher strictement à la politique des États.
À la souveraineté.
Et à la souveraineté. Chacun. Et quelque part, ça n'empêche pas qu'il y ait des projets différents, alors d'alliance ou autre, mais on est sur quelque chose qui va être extrêmement délicat. Et là encore, au niveau des positionnements des différents États membres, de la hiérarchisation des menaces, de ce que l'on pense de travailler plus avec l'OTAN, simplement des différents niveaux et visions que l'on aura dans les armées, eh bien, vous aurez des agendas différents. Et ce que vous avez dit, c'est-à-dire au niveau de la population, du soutien, des agendas des différents États, là aussi, vous pouvez avoir des divergences et avoir comment vous allez articuler les choses. Et vous pouvez aussi, reste à savoir ce que l'on fera de ces 2-3%
du PIB
qui seraient accordés, vous pouvez complètement, pour faire passer les choses, par exemple sur une opinion publique qui ne serait pas pour aller sur ce que de l'armement offensif, eh bien dire, oui, on va faire du matériel militaire, mais on va faire, par exemple, du vêtement. Donc vous pouvez aussi tout à fait ventiler les choses de différentes manières. Et là, vous allez avoir des négociations en interne.
Vous avez à côté de ça une armée polonaise qui est en train de remonter en puissance considérablement et qui va devenir la première armée de terre, au moins d'Europe, d'ici avant 2030. Mais vous avez aussi une acceptation peut-être de la chose qui est beaucoup plus importante en Pologne.
C'est une relation historique.
Ils ont une frontière avec la Russie, ils ont une frontière avec la Biélorussie et ils ont un passif d'invasion et démembrement qui peut-être les motive.
Alors, c'est judicieux de le faire pour mobiliser, j'allais dire, les États. Et dire effectivement aux pays européens et aux pays de l'OTAN, il faut faire un effort collectif. Si on ne fait pas cet effort, en effet, il y a un vrai risque pour l'Ukraine. De l'autre côté, vous avez raison. On donne un signal en disant, mais je pense que les Russes sont à peu près au même niveau, c'est-à-dire quand les deux parties sont un peu à l'os, entre guillemets. C'est ça, malheureusement. Donc, qu'est-ce qui dit, qui dit la vérité là-dedans? Même M. Stoltenberg, est-ce qu'il dit toute la vérité? Sans doute pas exactement. Mais il cherche, de mon point de vue, à travers ce discours, à mobiliser les pays européens.
Patron de l'OTAN.
Christine Dugoin-Clément.
Vous avez plusieurs choses. Il y a une approche qui vous dit effectivement qu'on aura une offensive. C'est une offensive russe
massive.
C'est une des possibilités. On pourrait aller avec peut-être plus de certitude sur ce que l'on voit, c'est-à-dire vraiment une installation de longue durée au niveau de la Russie, essayer de vraiment stabiliser ses lignes et de pousser avec de l'usure régulière.
Il y a un conflit gelé, d'installer un conflit gelé.
Alors, pas forcément un conflit gelé. Vous allez avoir effectivement des poussées, etc. Mais entre des poussées et avoir une offensive massive, si vous voulez. Alors, on sait que grâce aux différentes mobilisations, ils ont des troupes qui ont été formées, qui sont aussi fraîches que
formées en quelques semaines.
Alors, formées en 3 mois, ça sera toujours mieux que formées en quelques heures ou quelques jours sur ceux qui ont pu arriver sur la première ligne. Alors, évidemment, on ne passe pas, par exemple, de fleuriste à force spéciale en 3 mois. Je le crains. Néanmoins, on a quand même un petit peu plus de compétences. On a aussi la capacité d'avoir mieux équipé, mais si on rentrait dans une offensive complètement massive, type rouleau compresseur, il faudrait peut-être arriver à mobiliser plus encore. Et au-delà de la mobilisation et de l'acceptation, ça veut dire qu'il faut que vous équipiez les hommes que vous allez mettre en place. Équiper 200 000, 300 000 ou 400 000 personnes ne se fait pas non plus en un claquement de doigts.
L'équipage de chars, ça prend... D'après ce que disent les Polonais, ça peut prendre 1 mois, ce qui est en soi déjà assez peu. Mais alors, former un équipage d'avions de combat, c'est quand même un autre...
Oui, c'est ce que réclament les Ukrainiens.
Bien sûr, mais c'est aussi symbolique. C'est, ils demandent le bras, ils auront la main, si vous voulez. Donc c'est une façon aussi de négocier.
C'est-à-dire que c'est des avions avec les normes occidentales, voler individuellement, utiliser ses armements, de sens que ça, et que ça tape au bon endroit, c'est déjà compliqué. Et voler ensuite en patrouille, c'est
encore plus compliqué. Façon Top Gun, vous
voulez dire. Oui, exactement. Donc on peut commencer tout de suite, mais ils les auront pas avant 18 mois. Oui, mais...
Après, il y a une autre question qui se pose, c'est les caractères d'urgence. Donc effectivement, munitions, défense aérienne, et pourquoi pas. Mais on va avoir aussi, sortie de ça, une autre question qui va être quel type d'avion. Parce que